bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nouvelle Voix. Je suis Xavier Malartre, le fondateur de Reconverso. Que ce soit Reconverso ou le podcast Nouvelle Voix, l'objectif est le même, c'est de vous aider à trouver une vie professionnelle qui correspond pleinement à vos attentes, notamment en termes de sens et d'équilibre. Sur le site reconverso.fr, vous allez retrouver différents contenus qui peuvent vous aider dans votre transition ou déjà dans vos envies de changement. Vous allez retrouver des articles, des guides, également des programmes en ligne et des accompagnements. Je vous mets le lien vers le site reconverso.fr dans les commentaires de l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute de ce nouvel épisode. Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de l'interview de Virgile Cormier. Dans la première partie, on a principalement évoqué son parcours et surtout sa transition professionnelle. Et dans cette deuxième partie, donc l'épisode d'aujourd'hui, on va principalement se centrer sur le travail qu'il a effectué sur le sujet du désenchantement au travail. Les deux parties, les deux épisodes sont vraiment dissociés, c'est deux sujets différents. Donc si vous n'avez pas écouté le premier, ben ça ne vous empêchera pas du tout de suivre ce deuxième épisode qui, je l'espère, va vous intéresser sur ce sujet, le désenchantement au travail et l'opportunité que ça peut représenter pour les différentes transitions, transition écologique, transition sociale. Je vous laisse découvrir tout ça dans cet épisode. Alors, je viens du coup, ouais, effectivement, qu'on revienne sur ton mémoire. Donc, je rappelle, hein, si vous prenez l'épisode en cours de route, parce que je chapitre les épisodes, donc parfois on peut écouter... sans avoir écouté ce qui s'est passé avant, donc juste pour voilà, que tout le monde soit bien d'accord, tu disais tout à l'heure que quand tu as fait l'Institut Transition, qui est donc une formation à Lyon, qui forme sur la transition, notamment écologique, tu devais faire un mémoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet de ce mémoire que tu as fait ?
Alors oui, bien sûr. Bah, moi, du coup, j'ai fait mon mémoire sur le sujet du désenchantement au travail.
Voilà. Vaste sujet.
Ouais, vaste sujet. Et donc j'ai choisi ce sujet-là par rapport à mon parcours parce que moi j'ai considéré que c'est en étant désenchanté ou alors je disais désenchanté parce que c'est un terme que j'affectionne particulièrement parce que je l'ai découvert pendant mon travail de recherche, mais c'est une déception, c'est les gens qui sont déçus du travail ou quand le travail correspond pas aux attentes qu'on se faisait, notamment quand on était étudiant, de ce que c'est la réalité du monde du travail. Moi, je considère que c'est par cette déception dans le travail que j'ai été amené en fait à me poser des questions plus globales sur quel impact j'avais envie d'avoir dans le monde, quel sens je veux avoir dans ce que je fais au quotidien. Voilà, sachant que peut-être que si j'avais pas été désabusé du travail à un moment donné, peut-être que je serais resté où j'étais parce que c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans en fait au début de mon parcours.
Donc tu veux dire que l'effet, la déception quelque part, le désenchantement, ça peut être quelque chose de moteur.
Ouais, complètement. Ça ouais. Peut c'est un mal pour un bien ou c'est comme on dirait, c'est parfois par les échecs en fait on a l'impression que c'est un échec sur le moment et en fait ça nous permet de mieux rebondir ou d'aller de l'avant en fait tout simplement.
Et de se poser des questions qu'on se serait pas posé, c'est ce que tu dis finalement, tu aurais pu rester toute ta carrière dans le domaine juridique, enfin dans les produits que tu vendais à l'époque, mais finalement le fait d'avoir des déceptions par la suite, ça t'oblige à aller même encore plus loin que ce que tu aurais fait en temps normal quelque part.
Ouais, c'est ça, complètement. Et je pense que c'est moi l'angle que j'ai pris ensuite dans mon mémoire, c'est de dire en fait, c'est que moi, c'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant et de changer des choses, d'être où je suis aujourd'hui, de me sentir plus aligné. Voilà, malgré que le fait que même si j'étais bien en fait au début de ma carrière, il y avait quand même cette petite voix intérieure qui me disait voilà, je suis pas certain que je fasse ça toute ma vie. Déjà à l'époque, je me disais, je sais pas si je ferais ce métier-là toute ma vie, et je me posais déjà des questions, mais qui étaient un petit peu sous le tapis parce que ça se passait bien. Mais en fait, c'est les difficultés arrivant où effectivement c'est remonté, et c'est là où ça m'a permis de faire ma transition en fait pour le coup.
Et est-ce que dans ton mémoire, du coup, tu as constaté ça à l'échelle plus globale, au-delà de ton histoire? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres histoires similaires? Comment tu as découvert Est-ce que tu as découvert des choses en tout cas en faisant ce mémoire?
Ouais, alors j'ai découvert énormément de choses et effectivement mon expérience c'était de dire moi j'ai été désenchanté dans le travail, mais aussi dans mon parcours j'ai vu que autour de moi il y avait beaucoup de personnes qui étaient aussi désenchantées dans le travail et c'est un peu avec ces questionnements là que j'ai commencé l'Institut Transition en me demandant en fait comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui soient déçues par le travail et que malgré tout il y a si peu de personnes qui font une transition, qui changent cette situation qui ne leur convient pas, et avec cette place aussi du travail, que le travail garde aussi cette place un petit peu centrale dans notre société, qu'on dise que c'est comme ça qu'il faut qu'on se réalise. Enfin, c'est un peu le truc qu'on a depuis qu'on est tout petit, hein, c'est qu'il faut, tu décides ton travail et tout ça, c'est par ça que tu vas t'accomplir. Voilà, ce différentiel entre l'expérience réelle que je voyais des gens autour de moi par rapport au travail comment on projetait en fait le travail. Et donc, du coup, je me suis dit, y a un sujet, quoi. C'est pas possible qu'il y ait autant de personnes qui soient déçues et ça pas toujours été comme ça. Faut que je comprenne pourquoi cet état de fait on est là en fait. Voilà, exactement.
Et tu peux nous dire du coup, alors j'imagine que c'est compliqué de résumer un mémoire en quelques minutes, mais qu'est-ce que tu as découvert là-dessus justement, déjà peut-être sur les causes du désenchantement, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est les personnes qui ont changé? Est-ce que c'est le monde du travail? Est-ce que c'est les deux?
Alors, c'est un des aspects intéressants, je trouve, de la recherche que j'ai faite. Effectivement, c'est un peu des deux par rapport à ce que tu dis. Ça vient d'un monde du travail qui a changé, et ça vient de aussi des travailleurs qui ont des aspirations différentes par rapport au travail. Alors après, de dire qui de l'œuf ou de la poule a engendré l'autre, moi j'ai l'impression que c'est effectivement à la base des changements structurels dans le monde du travail qui ont fait que aussi au bout d'un moment les travailleurs ont aussi cette relation au travail qui a changé. Y a un truc que j'ai trouvé intéressant que disait un sociologue qui s'appelle Thomas Coutreau, qui expliquait qu'en fait là avant ce désenchantement global au travail, il y avait une période où il y avait un espèce de compromis dans le travail qui avait été trouvé jusqu'au début des années 80-90, quoi, grosso modo, où en fait t'avais un travail qui était pas spécialement intéressant ou qui avait pas spécialement de sens, mais en fait tu te posais moins la question parce que en retour, on te donnait un certain statut social, tu avais un certain pouvoir d'achat. Il y avait comme un petit peu, c'est ce qu'il appelle le compromis fordiste.
Ce qu'il appelle le compromis.
Compromis fordiste, il appelle ça.
D'accord,
okay. Et ça, si vous voulez, je vous mettrai la référence pour ceux qui veulent aller creuser un petit peu ce truc-là. Et en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est plus le cas aujourd'hui. Parce que les entreprises changent beaucoup plus vite aussi qu'aujourd'hui. Ce contexte des réorganisations que moi j'ai vécu en entreprise, j'ai l'impression que c'est vécu par beaucoup aussi.
Oui, par beaucoup. Moi je l'ai vécu aussi par le passé.
Ouais. C'est insécurisant. C'est-à-dire que forcément, t'as des personnes qui étaient sur un poste, qui étaient en maîtrise de ce qu'ils faisaient depuis des années. Et le changement, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais par contre, c'est l'excès de changement et le fait de ces changements répétés qui sont un petit peu difficiles. Toujours sur le contexte, il y a des nouveaux modes de management aussi qui sont arrivés. Avec quelque chose qu'on appelait le management par le chiffre, mais c'est lié aussi à ce contexte de financiarisation où moi très concrètement à mon niveau, je voyais que c'était un petit peu ce que j'expliquais dans mon parcours, le management par il faut que tu aies passé tant d'appels, alors avec des outils qui sont plus capables de te surveiller maintenant, entre guillemets, pour améliorer ton efficacité, toujours c'est pour te dire tu peux faire encore mieux, ça te met une espèce de pression un peu inhérente et t'es toujours dans aller plus vite, faire plus de chiffres, enfin en tout cas moi c'est mon expérience de commercial, où du coup tu tu as un mode, enfin une vie au travail qui est quand même plus difficile et et qui est un peu dégradée. Du coup, il y a ça.
Et moi, je trouve plus intensive aussi. Je dis ça parce que je viens d'enregistrer. Avant notre épisode, j'ai enregistré un épisode parce que l'interview là, on est en train de la faire maintenant. On l'enregistre fin 2023, elle sortira début 2024. Mais j'ai enregistré un épisode juste avant et je parlais aussi de l'intensification du travail avec exactement ce que tu dis. C'est-à-dire le fait qu'on puisse mettre des objectifs beaucoup plus précis, beaucoup plus chiffrés, qu'on puisse beaucoup plus suivre la performance. Tout ça fait qu'on intensifie le travail, pas forcément dans la durée. Je veux dire, on travaille pas forcément plus en durée. Mais le temps que tu passes au travail, il est extrêmement intense par contre.
Bah, complètement. Je te rejoins à 200%. C'est... Je l'avais pas théorisé en fait avant de me poser sur ce sujet du mémoire. Par contre, je l'avais ressenti dans mon corps. C'est-à-dire que cette intensification du travail, ça allait jusqu'à des côtés presque qui peuvent sembler absurdes. C'est-à-dire à presque millimétrer sa 6 minutes. Est-ce que là, je suis bien le plus efficace possible pendant 7 minutes, comme on l'a vu dans certaines expériences que je t'ai racontées pendant mon parcours. Ça peut aller assez loin et ça crée une espèce de pression un peu permanente qui du coup fait que l'expérience de travail est pas spécialement plaisante quoi et voilà, enfin ce fait d'être surveillé aussi par les outils c'est pas quelque chose que j'ai trouvé de très plaisant pour le coup. Alors et sinon sur les autres causes de d'où vient le désenchantement, j'ai trouvé qu'il y avait un peu une particularité française aussi où finalement on met une valeur autour du travail qui est quand même assez importante en France, et en tout cas on a des attentes par rapport au travail qui sont très élevées en France.
Ok.
Et donc d'où ce qui peut expliquer un certain désenchantement, parce qu'en fait quand tu as des attentes élevées par rapport à quelque chose, plus dure sera la chute quelque part.
Plus t'as de chances d'être déçu quoi quelque part.
Exactement. Ouais. Et donc ça c'est quelque chose qui explique que en France particulièrement on peut vivre ce désenchantement.
Qu'est-ce qu'on y met de plus que les autres en France,
qu'est-ce qu'on y met de plus que les autres? Je pense qu'en fait il y a cette idée en France que il faut dès qu'on est depuis tout petit, qu'il faut faire des études, qu'il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon métier. On le vend un petit peu comme le Graal. Et en fait, la finalité, c'est que t'arrives en fait au début ou même je vois en école. Enfin, bon là, j'ai mon expérience en école de commerce. En école de commerce, on te forme à tout un tas de choses de management stratégique, alors que, enfin, toi, tu vas arriver, tu vas être stagiaire au début. Tu vas pas faire de la stratégie. Très probablement, tu vas prendre beaucoup de temps avant de faire de la stratégie. Donc voilà. Et puis il y a tout ce parcours un petit peu de croix qu'ont les jeunes diplômés aussi en sortie d'école. Tu dois passer par maintenant tu fais une année de césure et puis après t'as quand même des stages et puis au début t'as une période d'essai et puis au début on t'explique forcément t'as pas un bon salaire mais tu vas monter à un moment donné, enfin voilà, il y a tout ce truc là qui fait que tout le cheminement est pas aisé, pas forcément toujours plaisant. Après on te dit c'est la voie naturelle donc tu l'acceptes mais après de l'autre côté justement c'est ça aussi d'où vient un petit peu le changement pour le coup du rapport dans le travail, c'est t'as toutes ces expériences un petit peu déceptives dans le travail mais justement on revient sur le compromis fordiste, en face t'as pas forcément ce que tu avais avant, c'est-à-dire que t'as pas forcément Là, c'est plus lié au contexte un petit peu économique, moi, par exemple, je me rappelle très bien que dans une des startups où j'ai travaillé, c'était en région parisienne, donc le contexte immobilier est pas forcément le même que si t'as des auditeurs qui sont ailleurs, mais je me rappelle d'avoir parlé avec une fille qui était directrice marketing de cette startup qui marchait bien et qui m'expliquait qu'en fait, elle vit dans un 20 mètres carrés et qu'elle passe tout son temps au travail parce que de toute façon, elle est dans un 20 mètres carrés.
À Paris, du coup, c'est ça?
À Paris, ouais, pour le coup.
Oui, c'est notre vie,
La promesse, la récompense en face n'est pas toujours tenue
Pas toujours tenue. Alors qu'avant, c'était plus tenu. Et peut-être aussi, ce que j'entendais tout à l'heure, tu disais que dans ce compromis fordiste, je crois que tu parlais aussi du côté statut social.
Ouais.
Et ça, je trouve que, tu vois, moi qui étais dans le recrutement, je sais qu'avant, je voyais des CV, je vois des personnes, je reviens sur ton premier métier de commercial, qui marquait cadre commercial, tu vois.
Ouais.
Tu voyais que cadre, c'était un côté important, valorisant, etc. Aujourd'hui, plus personne marque ça, je veux dire, mettre cadre commercial, tout le monde s'en fout, franchement, tu vois. Donc, ouais. Voilà, je pense qu'il y a ce côté aussi où le statut social, il passe plus forcément par le travail. Ça dépend pour qui, ça dépend, je pense que chacun peut voir les choses un peu différemment, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, ça passe moins par le travail.
Ouais, enfin, en tout cas, il y a des grosses différences générationnelles sur le statut, enfin le statut que peut donner le travail. Mais moi, ouais. C'est drôle ce que la remarque que tu fais, parce que justement, je me rappelle avoir interviewé quelqu'un pour mon sujet de mémoire, qui était cadre commercial aussi, et qui me disait le statut de cadre, c'est une manière de nous arnaquer, quoi, de pas nous payer à l'horaire et de nous proposer des tout petits salaires sans être payé sur tous les horaires, parce que c'est le statut en fait qui veut ça pour le coup.
Ouais. Donc effectivement, c'est le compromis, ça marche plus, quoi. Le compromis du statut social, en tout cas, ça.
Exactement. Et puis en fait vient se greffer sur toutes ces problématiques là qu'on vient de citer, aussi moi c'est ce que j'ai vécu aussi, mais un des questionnements en fait, notamment par rapport à la crise écologique, mais il y en a d'autres, qui fait que auparavant, on pouvait penser avoir une carrière linéaire, étape par étape, et que pour de plus en plus de personnes, c'est de moins en moins le cas, où on se projette de moins en moins aussi dans cette carrière linéaire. Donc voilà, il y a un petit peu ce récit-là qui se craquelle aussi. Donc tout ça, je dirais, fait que effectivement, on va plus vers des personnes qui sont désenchantées dans le travail, ou en tout cas qui ont un rapport au travail qui est complètement changé.
Donc, il y a bien les deux dans ce que tu dis quelque part. C'est bien, les deux sont liés, quoi. Changement dans le monde du travail, changement pour les personnes.
Ouais.
On trouve plus compromis, quelque part.
On trouve plus compromis, et c'est ce qui fait que, du coup, on est déçu. Et du coup, là, on en vient sur la relation au travail. Change dans notre société avec... ça vient de là aussi, les aspirations au travail qui sont différentes, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus travailler chez Total parce que pour des raisons de sens. Alors, il y en a qui y vont encore. La question, c'est pas de dire que plus personne n'y va. Mais pour ces marques qui n'ont pas un engagement qui est perçu par les jeunes diplômés suffisamment fort, ils sont obligés de mettre en place un peu une stratégie marque employeur pour essayer d'attirer les meilleurs talents, alors qu'avant, dans les années 80, ils n'avaient pas besoin de faire ça. C'est-à-dire que naturellement, les meilleurs étudiants, ils venaient chez eux, en fait.
Et du coup, tu disais que ton mémoire, c'était à la fois donc, ce côté de désenchantement et quelque part l'opportunité que ça crée. C'est un peu ça aussi l'idée, hein, si j'ai bien compris.
Ouais, exactement. Exactement.
Est-ce que là-dessus, t'as découvert des choses aussi sur le ce que ça peut créer, justement, ce désenchantement? Est-ce que c'est un terreau fertile?
Ouais, tout à fait. Merci de me poser la question. C'est ce que j'ai trouvé de très intéressant, c'est que ce désenchantement, pour moi, c'est justement une bonne opportunité ou une bonne raison de changer le cadre du travail et même le cadre de société qui fait qu'en fait on se retrouve dans ces métiers où on n'a pas de sens, on n'a même pas toujours le statut ou la rémunération qui va avec, et en fait pour moi ça c'est des manifestations qu'en fait on est un peu en bout de course d'un mode de, d'un modèle de travail qui ne marche plus en fait aujourd'hui. Et en fait, c'est notamment parce que, je détaille pas tout, mais parce qu'on est dans une société qui veut pousser à la croissance, qui a un modèle économique de croissance en fait perpétuel, qui fait que, à un moment donné, comme la croissance n'est pas infinie, à un moment donné, il faut trouver des solutions pour la faire, la croissance. Donc, c'est soit en dégradant les conditions de travail, soit en accélérant les cadences. Donc, c'est ce truc de l'hyper-accélération dont tu as parlé. En fait, le truc, c'est de dire, en fait, pourquoi à la base, on court après ça? C'est à mon avis ce qui explique que c'est le lien que je fais entre le travail et la transition écologique. C'est-à-dire si on fait une transition écologique et sociale, on revoit la logique qui fait qu'on se retrouve dans ces travails qui sont dégradés. Pareil, aujourd'hui, il y a un truc que j'ai vu, c'est que les métiers de sens ou les métiers qui ont le plus d'utilité sociale, ils sont pas suffisamment valorisés dans notre société. On l'a vu, hein, par exemple, avec le Covid. Ceux qui étaient les plus essentiels, c'était ceux qui étaient aussi souvent les plus précarisés.
Les plus mal payés, c'est clair.
Et c'est là où il y a un problème. Il y a un problème et où moi j'aimerais qu'on appelle à changer un peu le cadre qui fait que qui est problématique en fait, et changer un petit peu de logique et pour aller vers un travail qui soit plus valorisé en fonction du sens, parce que enfin le sens du travail, c'est pas juste quelque chose qu'on fait pour soi. En général, le sens qu'on trouve au travail, c'est parce qu'il a un sens pour l'autre, pour le sens souvent pour soi. Moi, ce que j'ai compris, c'est que si c'est un sens qui, c'est quelque chose qui fait sens pour la société, c'est quelque chose qui apporte en fait aux autres. On est des animaux un peu sociaux. On a besoin que notre action ait une action, enfin elle ait un effet sur le monde, que ça permette d'améliorer les choses dans le sens qui nous anime. Donc c'est plutôt ça en fait, cette quête de sens. Et c'est dommage qu'elle soit trop réfrénée par le cadre du travail qui est encore pas adapté en fait à ça. Et en plus, la bonne nouvelle que j'ai trouvée dans mon mémoire, c'est qu'en fait, si on changeait ce cadre du travail pour aller vers que les personnes puissent retrouver du sens au travail, probablement que si on privilégiait le sens au travail, on ferait les métiers qui seraient aussi ceux qu'il faudrait pour faire la transition écologique et sociale, pour faire une transition.
Oui, parce que quelque part, ce que tu dis, je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire que chercher du sens, c'est pas se regarder le nombril, quoi. C'est pas faire de la réflexion, de la tergiversation dans son petit coin. C'est souvent, il y a un côté collectif, ce que tu dis, parce qu'en général, là où les personnes ont trouvé du sens, c'est quand on apporte quelque chose aux autres, à la société, qu'on a apporté quelque chose de positif. Donc, c'est pas se regarder le nombril, au contraire, c'est plutôt regarder à l'extérieur les autres.
Ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est ça que je trouve hyper enthousiasmant, c'est que effectivement aujourd'hui le sens dans le travail, c'est pas ce qui est mis en premier, mais par contre c'est ce qui nous aiderait en fait si c'était si on privilégiait et qu'on mettait le niveau de rémunération au niveau de l'utilité sociale ou du sens de chacun, en fait on serait dans une société où ça irait beaucoup mieux, parce que combien de personnes, si on leur donnait le choix, ils continueraient à faire un métier qui juge un peu bullshit ou ils comprennent pas vraiment. Beaucoup de gens font ça parce que il y a une rémunération qui en face permet d'avoir ce qui est essentiel pour vivre, parce que forcément la rémunération c'est quand même un petit peu important. Mais si on entre guillemets on était beaucoup plus à privilégier le sens ou à faire ce qu'il faudrait faire pour faire une transition, par exemple les métiers qui apportent, quand tu fais réparateur vélo, quand tu travailles dans les transports en commun, en fait il y a beaucoup de métiers qui seraient, on n'aurait pas un problème de travail avec la transition écologique et sociale, il y aurait plein de choses à faire. Mais faudrait privilégier ce qui est vraiment important, et souvent ce qui est important pour la société, c'est aussi ce qui fait que ça a du sens pour les personnes, parce que souvent le sens on le trouve dans l'action qu'on a dans la société. Donc,
l'utilité que ça peut avoir. Alors, tiens, ça m'intéresse de te poser une question, vu que tu as travaillé sur le sujet. C'est une question que je me pose, moi, justement. Moi, ma conviction, quelque part, c'est que c'est plus facile de travailler sur le sens à titre individuel que dans une entreprise, par exemple. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu les choses à l'envers, tu vois. C'est-à-dire que si tu vas en entreprise en disant, il faut qu'on trouve un sens à ce qu'on fait, c'est un peu à l'envers. On est en train de faire quelque chose, déjà, une activité. Puis on se dit, pour attirer les jeunes talents dont tu parlais tout à l'heure qui sont en quête de sens, il va falloir qu'on trouve du sens dans ce qu'on fait. Et du coup, on met un peu le truc à l'envers, quoi. Alors, qu'est-ce qui a du sens dans ce qu'on fait déjà depuis 25 ans? Il me semble que c'est plus facile d'avoir une réflexion individuelle en se disant, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Et je vais trouver un travail qui est en lien avec ce sens-là, tu vois. Donc, c'est ma vision des choses, mais ça veut dire que ça, c'est facile à faire quand tu peux sortir de ton entreprise ou de ton poste actuel pour aller chercher autre chose, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que des fois, tu es dans une société, comme tu disais, des fois, ça peut être des questions de salaire, etc. Tu n'as pas toujours la possibilité de partir. Donc, est-ce que tu penses que quand tu es dans une entreprise, par exemple, tu peux trouver du sens dans ce que tu fais sans forcément changer d'emploi?
Alors, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Après, réfléchir, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis, réfléchir au sens de l'entreprise, c'est pas réfléchir à son sens à soi. C'est, et je pense qu'effectivement, ça vaut le coup de quand même réfléchir à ce qui fait sens pour soi. Alors après, c'est pas parce qu'on a fait ce travail sur soi, de réfléchir à ce qui fait sens pour soi, que comme tu dis, hein, il y a des freins qui existent. Voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi. C'est pas si simple, c'est pas parce qu'on trouve quelque chose qui fait sens que bah, tout de suite on va pouvoir aller dans ce qui oui. serait idéal pour nous. Il peut y avoir des étapes, il peut y avoir des choses aussi à prendre en compte. Hein, chaque situation est différente. Par contre, effectivement, on peut, si on n'est pas en capacité tout de suite de bouger de son entreprise pour des raisons X ou Y, on peut entamer effectivement un travail de retrouver son sens dans son travail en mettant en place des projets qui sont liés directement à son travail ou qui ne le sont pas forcément. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai interviewé une personne, j'ai trouvé ça super intéressant. Elle était dans son entreprise, elle n'avait pas la possibilité de bouger parce que elle avait une vie familiale. Enfin voilà, elle devait garder un certain salaire parce que du coup, elle devait assumer des personnes dans sa famille. Mais du coup, elle a retrouvé son sens pas dans le métier qu'elle faisait, mais par contre, elle a développé un petit peu un projet autonome en intrapreneuse dans son entreprise où elle s'est mise, alors elle s'est alignée un petit peu sur des objectifs que s'était fixé l'entreprise en matière de RSE. Et en fait, elle les a repris à son compte en disant, ben là voilà, vous voulez mettre ça en place, ben moi je vous propose de vous me dégager un petit peu de temps dans ma semaine et je vais aller sensibiliser des personnes. Donc du coup, voilà. Tu vois, c'était hyper intéressant de voir ce qu'elle mettait en place.
C'est hyper intéressant, ça répond tout à fait à ma question, c'est-à-dire qu'il est possible de faire des choses même sur un poste, on peut pas forcément en partir. On peut trouver du sens autrement aussi.
Oui, tout à fait. En tout cas, il y a des leviers. Je ne dis pas que toutes les situations s'y prêtent, mais effectivement, on peut déjà commencer à... Si on part du constat qu'on, de toute façon, là, on peut pas bouger dans l'immédiat, on peut essayer de voir quels leviers on a à disposition. Et parfois, dans l'entreprise, en regardant un petit peu autour de soi, en discutant avec certaines personnes, que ce soit son responsable RSE ou c'est pas forcément que le responsable RSE, il y a plein d'autres projets aussi qui émergent liés à ces questions écologiques et sociales en entreprise peut-être qu'on va pouvoir trouver un projet qui va nous enthousiasmer et dans lequel on va retrouver son sens au travail, pas exactement sur son activité à soi, mais ce sera un petit peu la bouffée d'air frais de sens qu'on pourra avoir dans son travail grâce à ça.
Ouais, complètement. Bon, écoute, je trouve ça super intéressant. En tout cas, ce mémoire, ça donne envie de le lire. Parce que le sujet est vraiment intéressant. Puis tout ce que tu en as retiré me paraît aussi vraiment enrichissant. Et du coup, alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce mémoire? J'imagine qu'on pourra en parler pendant des heures. Hein. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a un autre point clé que tu veux partager là dans le podcast sur ce mémoire-là?
Alors, oui, justement, un petit peu dans le prolongement de ce qu'on se disait. Dans le fait qu'on peut retrouver son sens, si on l'a perdu son sens dans son emploi actuel, on peut le retrouver en trouvant un projet, ce que j'appelle émancipateur, dans son entreprise. Mais il faut aussi, et ça c'est un petit peu l'erreur qu'on peut faire parfois, se dire que il n'y a peut-être pas que le travail aussi dans la vie. Et si on ne peut pas bouger de son emploi dans l'immédiat, on peut peut-être retrouver son sens aussi en dehors du travail, en ayant un projet personnel qui est émancipateur. Voilà, moi par exemple, moi c'est différent, mais j'essaie de mettre en place des actions de sensibilisation dans ma ville là où je suis. Donc je me mets en lien avec des associations locales qui font des actions. La dernière fois, on est allé, il y avait une vélorution, c'est-à-dire une manifestation à vélo pour revendiquer d'avoir plus de pistes cyclables dans la ville où je suis, donc c'est à Melun exactement, pour ceux qui connaîtront. Et voilà, enfin, je veux dire, ça c'est à côté du travail, mais c'est un espace où, quand c'est possible, je retrouve mon sens, parce que là, du coup, c'est un espace dans lequel je suis plus libre de faire ce qui va m'intéresser, voire même je peux aller plus loin en associatif. Je veux développer mon expérience en formation ou en comptabilité ou en autre. Après, chacun aura un petit peu ses compétences. En fait, je peux me dire, l'expérience associative que je pourrais faire à côté de mon emploi, ça peut être quelque chose sur lequel, en fait, je développe soit de nouvelles compétences, soit ça va aussi être ma bouffée d'air frais où je ferai vraiment ce qui m'intéresse, quoi. C'est un sujet qui m'intéresse et du coup, je retrouve mon sens là-dedans et ça compense un petit peu ce que je peux ne pas avoir dans le travail. Donc, il y a peut-être ce truc-là aussi à avoir en tête, quoi, pour le coup.
Ouais, sachant que c'est un point super, super intéressant et important. Et d'ailleurs, dans les parcours d'accompagnement que je propose, on travaille là-dessus aussi parce que je trouve que si tu mets trop tes œufs dans le même panier, et notamment dans le travail, c'est-à-dire que si tu mets tout dans le travail, c'est très dur de trouver un travail qui te correspond en tout point. Et donc, parfois, c'est vrai que tu peux regarder aussi ce que tu peux faire à côté quand tu as le temps de faire des choses à côté. En tout cas, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis là. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Des fois, on se dit, voilà, il faut que mon travail soit aligné. Et si on n'a pas la possibilité de le faire tout de suite, bah, ça peut être par des actions à côté. Quand on a le temps pour faire de l'associatif, du bénévolat, etc. Je trouve que c'est top. Parfois, on n'a pas trop le temps, sincèrement. Moi, je connais, tu vois, des personnes qui ont déjà une activité professionnelle qui leur prend beaucoup de temps, une vie familiale qui prend beaucoup de temps. Alors, se dire, attends, après, s'il faut faire d'autres choses à côté, là, c'est plus possible. Mais ça peut être peut-être aussi d'autres actions qui permettent d'être alignées avec ses valeurs aussi.
Ouais, tout à fait. C'est très important ce que tu dis. Enfin, en tout cas, il faut avoir ça en ligne de mire. C'est-à-dire qu'il faut se dire, c'est une des palettes que je peux activer. Après, comme tu l'as très bien dit aussi, les situations, elles sont différentes selon les personnes. Effectivement, un des problèmes qu'on a avec le travail aujourd'hui, c'est qu'on y passe beaucoup de temps. C'est-à-dire que, et effectivement, c'est quelque chose qui est problématique parce que ça occupe la majorité de notre temps, que ce soit le temps où on y est concrètement et puis même le temps qu'on passe en fait à juste s'en remettre parce que effectivement après une journée de travail un petit peu difficile,
c'est vrai qu'il y a ce temps aussi,
mais... voilà, c'est pas toujours je dis pas qu'il faut non plus faut pas non plus accélérer voilà, il y a certaines personnes, faut trouver son équilibre avec soi-même, il faut se dire il faut, si on n'a pas le temps de passer en associatif, peut-être avoir une activité à soi qui est sa ressource et qu'on se dégage du temps pour se ressourcer sur cette activité. Après, c'est vraiment selon toutes les situations, mais effectivement, bon, ça le problème que pose le travail avec le peu de temps que ça laisse, effectivement, c'est un des enjeux. Et moi, je dis que c'est pour ça aussi qu'on devrait réfléchir à tout le temps qu'on passe à travailler et à pas faire plein d'autres choses qui finalement seraient quand même utiles, quoi. Enfin, juste si on avait plus de temps pour s'occuper de ses proches, passer du temps avec ses amis. Enfin voilà, c'est pour ça que moi j'appelle à ce qu'on passe à arrêter de mettre le travail de manière aussi centrale et à peut-être juste se réquestionner à pourquoi on travaille autant et est-ce que c'est toujours utile de travailler autant, sachant qu'on a quand même un niveau de société qui permettrait de ralentir un petit peu quand même aujourd'hui.
Ouais. Et en plus là, je pense en ce moment on a l'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure, mais qui se renforce très très rapidement là depuis quelques années, mais surtout depuis quelques mois, je trouve qu'il y a une accélération très forte. J'ai vu quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé, c'est quand on a commencé à l'automatisation, la robotisation dans l'industrie, les économistes, même des grands économistes comme Keynes, disaient mais en fait on va travailler moins, beaucoup moins, grâce à l'automatisation. Et en fait, alors on travaille un petit peu moins aujourd'hui parce que il y a eu 35 heures, etc. Mais en fait, globalement, c'est pas du tout ce que les économistes avaient prévu. Ils pensaient qu'on allait travailler nettement moins, et en fait, non. Et là, c'est pareil avec l'intelligence artificielle. On pourrait se dire, on va travailler beaucoup moins, mais en fait, si on continue sur la même logique, non, en fait, on va du coup arriver à produire plus, mais pas forcément à travailler moins.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est paradoxal. C'est un truc qui m'a fait beaucoup rire dans mon mémoire. C'est effectivement ce paradoxe apparent entre le fait que on n'arrête pas d'aller vers plus d'efficacité avec tout, l'intelligence artificielle. Enfin, tu l'as dit, la robotisation, l'industrialisation, tout ça, c'est censé en fait à la base être là pour nous faciliter la vie, nous faire travailler moins. Et en fait, c'est tout l'inverse. On a l'impression que alors, si on travaille peut-être en heures, pas autant, il y a quand même ce phénomène de, on a l'impression que le travail est intensifié, c'est-à-dire que
compacté,
comme tu l'as très bien dit. Et ça effectivement, c'est ça qui me fait dire que aujourd'hui, on pourrait, par exemple, on parle beaucoup de la semaine de 4 jours. Je veux dire, la semaine de 4 jours, a priori, il n'y aurait pas le désastre annoncé par beaucoup de monde quand on en parle. Il y a beaucoup de personnes qui expliquent que s'ils avaient à travailler 4 jours, ils feraient très bien leur travail de 5 jours en 4 jours parce qu'il y a presque une journée qui passe juste à papoter avec les collègues à la machine à café, pour le schématiser un peu. Mais il y a beaucoup de personnes qui seraient beaucoup mieux dans leur vie s'ils avaient une journée de plus par semaine, quoi.
Moi, je suis de près une entreprise que tu connais peut-être, LDLC, qui est une entreprise lyonnaise dans laquelle je suis intervenu sur de la formation. Ils sont passés à la semaine de 4 jours, la vraie semaine de 4 jours, c'est-à-dire c'est pas on fait 35 heures en 4 jours, c'est on enlève une journée de travail, hein, clairement. Les résultats sont très bons, ça marche très bien, les taux de satisfaction à l'interne sont très bons, et du coup, le dirigeant de la société communique beaucoup sur le sujet de la semaine de 4 jours. Lui, il est convaincu parce qu'il l'a testé et que ça fonctionne. Qu'on travaille moins et qu'on garde un niveau de productivité qui reste équivalent, quoi.
Ouais,
qui est même supérieur d'ailleurs.
Il y a même des expériences qui montrent que c'est supérieur, enfin que tu as un niveau de productivité supérieur. Mais bon, c'est ce que tu dis, c'est hyper intéressant. C'est la vraie semaine de 4 jours. Normalement, c'est effectivement tu gardes pas le même nombre d'heures travaillées parce que sinon ça a tendance à tout compresser. C'est pas forcément l'objectif. Ouais. Même s'il y a des personnes qui préféreraient quand même ça, et d'avoir une journée libérée. Donc, à mon avis, ça, même cette version compressée, là, pour le coup, on devrait signer dès demain pour y aller parce que tout le monde se sent mieux. Et peut-être un truc à te partager aussi qui est intéressant sur la semaine de 4 jours, c'est qu'il y a eu une étude que je pourrais te partager de l'association britannique Platform qui a démontré, donc c'est une association britannique, donc c'est au Royaume-Uni, qui a démontré que si le Royaume-Uni passait à la semaine de 4 jours sans perte de salaire, ça permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni de 21%. Donc c'est pas anodin. Donc en fait, c'est aussi le lien qu'on peut faire parfois entre travailler moins et puis aussi être plus vertueux écologiquement. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, ça semble énorme, 21%, mais quand on y pense, en fait, une journée de travail, tout le temps que tu passes juste sur ton PC ou toutes les ressources qui sont utilisées à l'usine, tous les trajets domicile-travail, moi, je le vois bien le matin en région parisienne, quand tu vois le nombre de personnes qui sont déplacées par une journée de travail, c'est énorme. Et voilà, c'était juste une petite stat qu'on pourra...
Très intéressante, et en plus, ça nous reboucle sur notre sujet tout à l'heure où on parlait d'écologie... De croissance ou de décroissance, etc. Voilà, de se dire effectivement, non seulement tu travailles moins, donc a priori, c'est plus agréable à titre personnel, et en plus, c'est plutôt vertueux. Donc, c'est quand même.
C'est une bonne nouvelle, ça.
C'est une bonne nouvelle, complètement. Bon, écoute, en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je pourrais encore en parler avec toi pendant très longtemps, sincèrement, parce que je trouve ça vraiment passionnant, ce mémoire, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. À titre professionnel et personnel, du coup, toute cette question du travail, du changement dans le monde du travail qui est aujourd'hui. Mais pour un épisode de podcast, pour que ce soit digeste pour nos auditeurs, je pense qu'on peut peut-être déjà s'arrêter là. Mais en tout cas, j'en discuterai avec plaisir parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant.
Écoute, avec plaisir, Xavier. Merci de m'avoir interrogé sur ce sujet-là. J'ai beaucoup de plaisir à en parler. Et si, à titre professionnel ou personnel, tu as envie d'en reparler, on peut tout à fait en reparler. Je peux te partager mon mémoire si tu veux. Je peux te partager des petits enseignements pour t'éviter d'avoir à lire le truc dans sa longueur.
Oui, si mais je peux lire juste l'introduction et la conclusion, comme le font les correcteurs à l'université, tu vois, ça me va bien. Non, je plaisante. Non, ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse vraiment. Donc, volontiers, oui.
Avec plaisir, je te le partagerai. Puis s'il y a besoin d'avoir aussi plus de ressources ou d'éléments par rapport à ça, si ça intéresse les auditeurs, par exemple, je peux conseiller quelques livres que j'ai trouvés particulièrement enrichissants.
Alors, je veux bien. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est que on en reparle nous après, hors antenne, j'allais dire, ça fait très pro, tu vois. on en parle en antenne et du coup, je mettrai dans les commentaires de l'épisode et je pourrai mettre quelques liens sur ce que tu conseilles, peut-être en lecture, sur ce que tu as vu. Ces derniers mois pendant la rédaction de ton mémoire, mais complètement. Je peux partager pas mal de ressources dans les commentaires de l'épisode. Et pour ceux qui nous écoutent, les commentaires de l'épisode, on les voit sur toutes les plateformes. On a accès aux commentaires et aux liens que je vais mettre, du coup, que tu vas pouvoir nous partager.
Avec plaisir.
Mais écoute, franchement, merci beaucoup, du coup, pour tout ce que tu nous as expliqué, raconté. Effectivement, on sentait que tu étais passionné sur tout ce que tu nous as dit sur ton mémoire, donc c'est hyper intéressant. Et puis tout ce que tu nous as dit sur ton parcours aussi, je pense que ça va toucher beaucoup de monde. Parce que ce que j'ai trouvé intéressant notamment, plein de choses, mais un des éléments, c'est de se dire que le cheminement, il ne s'est pas fait en quelques jours, en quelques semaines. Il y a eu ce bilan de compétences, c'était retourné sur un métier de commercial, il y a eu cette formation que tu as fait pendant le confinement, un nouveau métier de commercial, et ensuite ça a changé. Donc on voit que ça a pris du temps, que ça a pas mal cheminé. Quelque part, c'est rassurant de voir qu'il faut un peu de temps aussi pour que les choses évoluent, mais par contre, elles ont beaucoup bougé quand même chez toi. Quand on regarde le départ et où tu es aujourd'hui, il y a eu une sacrée évolution en tout cas.
Ouais, ben merci à toi de toute façon, Xavier, de m'avoir invité. Ça me touche beaucoup. Et ben écoute, je suis ravi que ça ait pu, si ça a pu apporter des choses à tes auditeurs. Voilà, moi je me vis pas du tout comme un radical ou quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Et voilà, je veux dire, il faut parfois pas se dire qu'on est radical ou qu'on faut faire les choses en fonction de soi aussi. Et je suis très content si ça peut inspirer certaines personnes. Moi, je vois dans mon entourage, il y a une ou deux personnes qui m'ont fait la remarque de me dire « Bon, écoute, moi, j'ai pas encore changé, mais par contre, ce que tu as fait, ça m'a vachement inspiré. » Donc, c'est plutôt cool. Ouais.
Ah, c'est super. C'est super. Et puis, je m'imagine, toi-même, quand tu racontais à cette époque où il y avait un peu le vertige, là, tu sais, si à cette époque-là, tu avais entendu cet épisode de podcast, tu vois, je pense que ça aurait été intéressant. Donc, les personnes qui sont dans cette phase-là, ça peut, ouais, je pense vraiment que ça peut apporter beaucoup de choses.
Bah écoute, moi j'ai eu beaucoup de chance, de toute façon, au fur et à mesure de mon parcours, de faire des belles rencontres et d'avoir été inspiré. Donc bah, j'essaie de le transmettre aussi. Si ça peut atteindre son but, c'est tant mieux.
Bon, je pense que ça atteint le but, franchement. En tout cas, merci beaucoup, parce que ouais, l'épisode, du coup, on a pris le temps de bien échanger, donc c'est super. Donc merci beaucoup pour le temps que tu as consacré au podcast. Et puis je te dis à très bientôt pour reparler de tous ces sujets passionnants.
Avec plaisir, Xavier. À très bientôt.
C'est terminé pour ce deuxième épisode avec Virgile Cormier. Le premier épisode avait été consacré à son parcours et à sa transition professionnelle. Et puis ce deuxième épisode, j'espère, vous aura intéressé sur ce sujet de mémoire du désenchantement au travail. Si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast Nouvelle Voix auprès de nouvelles personnes, vous pouvez simplement le partager, le commenter, le noter. C'est possible sur des plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.